Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Fidèles auditeurs, c'est la norme de vous retrouver chaque mardi à 19h sur UFM pour votre programme préféré et qui vous projette dans le monde professionnel. Soyez les bienvenus à ces nouveaux numéros. Ce soir, nous allons parler des femmes et des responsabilités étatiques. Pour ce faire, je reçois une jeune dame qui est déjà une figure dans les développements communautaires et de l'activisme dans le droit, pour le droit des femmes et des jeunes en République démocratique du Congo. En 2017, elle a été nommée ambassadrice de la paix pour la représentation par la représentation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Actuellement, elle est la présidente des renforts RDC. Elle prépare le jeune à des responsabilités étatiques. Elle est experte en gouvernance et développement social. Elle a été la porteuse du projet Wonderful MHM qui plaide pour la réduction des taxes sur le produit d'hygiène menstruelle pour le rendre accessible aux plus démunis. Elle a été mentor au sein de l'initiative Kitoumani de l'UNFPA. Elle a accompagné des jeunes filles brillantes pour leur développement personnel et professionnel. Elle a été la directrice exécutive de l'ONG Les Ailes du Cœur, où elle a milité pour la santé sexuelle et reproductive de jeunes et lutte contre le mariage précoce. Elle a été la facilitatrice de programmes au sein de l'ONG Congo Leadership Initiative, où elle a formé des jeunes au leadership et à l'entrepreneuriat. Elle a été la coordonnatrice de la représentation nationale des étudiants dans notre pays. Elle a été beaucoup de responsabilités. Elle s'appelle Prisca Maniala. Elle est mon invitée ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Un plaisir de vous recevoir dans YouJob, mais j'aimerais quand même savoir, est-ce qu'elle a senti, ça va ?
Non, ça va. Merci de me recevoir chez vous.
C'est un plaisir de vous recevoir, surtout au vu de votre engagement. C'est un engagement qui a toujours été dans des ambitions, ou c'est par accident quand même que vous êtes retrouvée dans, vous avez tous ces parcours ?
Eh bien, ce n'est pas un accident. Tout part d'une vision et d'un constat, c'est de se rendre compte que malheureusement, au sein de notre nation, il y a beaucoup de défis. Et ces défis, je me suis donné pour ambition de les relever, en tout cas à mon niveau. C'est dire qu'en tant que citoyenne consciencieuse, je me suis dit de répondre à l'appel de la nation, l'appel d'au secours, et j'ai dit présente.
Alors aujourd'hui, vous êtes la présidente des renforts RDC. C'est une boîte qui prépare les jeunes à des responsabilités étatiques. Vous le portez à cœur quand même. On aimerait savoir c'est quoi exactement, comment ça fonctionne.
Alors, renforts RDC, c'est un sigle qui signifie Réseau National des Femmes et des Hommes renouvelé pour la transformation de la RDC. C'est ce que signifie Renfort RDC. Et Renfort RDC, c'est une structure que j'ai mise en place en 2021. Ça fait maintenant 4 ans. Et je l'ai mise en place à ma sortie de l'université et aussi à ma sortie de la présidence nationale des étudiants du Congo. J'étais en train de réaliser très vite que, au cours de mon passage à la tête de la coordination estudiantine nationale et principalement au départ, celle de l'université de Kinshasa, où j'ai pu me rendre compte que, en tout cas en tant que jeune, on a un besoin d'avoir plus de jeunes qui puissent être présents sur les tables ou autour des tables où les décisions sont prises. Mais nous rencontrons un défi qui est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes qui étaient présents. Et il se faisait que je devais me retrouver parfois à être sur 10 plateaux ou sur 10 places à la fois. Mais à un moment, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres jeunes ? Je pense qu'il y en a et qu'il y en avait aussi à cette époque-là, mais qui n'étaient peut-être pas connus ou qui avaient les compétences, mais qui en manquaient certaines, notamment la prise de parole en public, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être brillants, peut-être intelligents, mais qui ont cette compétence qui fait défaut. Il y a des personnes qui n'ont peut-être pas assez confiance en eux. Donc il y a toutes ces compétences de vie courante, comme on les appelle, qui sont importantes. pour les jeunes qui aspirent à accéder au poste de prise de décision. Et j'ai eu le temps de les identifier. Et je me suis dit, pourquoi ne pas répondre à ce problème, à cet appel, à être celle qui va capaciter les jeunes qui ont pour ambition déjà. Donc ça doit être ça premièrement. Mais après, comme on le sait, à tous les niveaux, dans différents secteurs, nous sommes appelés à prendre des décisions, à participer à la décision. Et il est important pour ça de former les jeunes. Mais aussi, pour finir, c'est que Renfort RDC va au-delà des compétences intellectuelles et professionnelles. On a un accent sur les valeurs parce que nous nous sommes rendus compte que dans notre pays, ce ne sont pas les têtes qui manquent, mais souvent ce sont les âmes qui vont avec.
Ce sont les âmes qui vont avec parfois, qui ne sont pas pures. Hein. Ça, c'est vrai. Alors, vous avez, parce que vous l'avez évoqué hein, au début de votre carrière, vous sortez de l'université, vous sortez d'ailleurs d'une grande responsabilité en tant que président des étudiants, présidente de la représentation des étudiants RDC. Est-ce que cela vous a orienté dans votre parcours politique ?
Comme j'aime bien le dire, mon parcours, il n'est pas politique, c'est un parcours citoyen. Mmh. Tout simplement d'une personne, d'une patriote qui s'est rendue compte que le pays a des besoins et qui y répond depuis sa communauté.
Donc elle n'est pas politique, plutôt citoyen. Mais c'est l'un n'exclut pas l'autre.
Hein. En fait, pour moi, faire de la politique, c'est tout simplement participer à la gestion de la cité.
En tant que femme, il y a plusieurs défis. Plusieurs personnes, plusieurs femmes également évoquent des défis qu'elles rencontrent. Mais quels sont ceux que vous avez rencontrés en évoluant dans des sphères souvent perçues comme majoritairement masculines ? Je ne vais même pas rappeler s'il y a eu combien de femmes avec vous, par exemple, que ce soit à la REC ou dans plusieurs autres postes.
Oui, c'est vrai que j'étais la première femme à être élue déjà à la coordination d'une équipe. La première fois que l'on élisait une femme. Et c'était la première fois aussi à la présidence nationale des étudiants. Alors, oui, c'est vrai que l'environnement peut être perçu comme masculin. Mais je pense, et je continue de croire, qu'il y a de la place pour tout le monde. Et malheureusement, notre culture peut peser. Elle peut peser sur nos croyances et parfois même sur nos valeurs. Hein. Mais je continue à rester confiante que chaque personne a sa place, d'abord en tant que citoyen, et les femmes ont leur place. Et il est important juste de faire un rappel de temps en temps. Je crois qu'on finira par avoir le réveil du géant, comme on dit.
Mais apparemment, aujourd'hui, c'est devenu stylé de quand on est femme, je vais chercher des responsabilités, je vais tweeter tous les jours, je vais mettre deux photos et moi également, je vais chercher une certaine notoriété. Apparemment, c'est stylé. Mais quand on rentre dans le fond et on demande, c'est quoi le projet, c'est quoi la vision, c'est la vision. Et qu'est-ce que vous pensez de la tendance ? Apparemment, c'est devenu stylé.
Bon, alors, déjà, je dirais que si c'est un style, ce n'est pas mauvais. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a, comme on dit, un besoin de fond, mais l'un n'exclut pas l'autre. La forme n'exclut pas le fond. Et si la forme pourra attirer le fond, moi, je crois que c'est un bon début. Il faut d'abord que les gens y croient, parce que pour moi, je trouve que le premier obstacle pour que les femmes se lèvent, pour que les femmes prennent le devant dans la société, le premier obstacle, c'est la peur. Alors, s'il y a des personnes qui n'ont plus peur et estiment que c'est un style, on y va, moi, je pense qu'on y va d'abord. Mais après, il y a lieu pour nous, en tant que femmes et surtout en tant que jeunes femmes, de nous construire et de construire notre discours, de construire le narratif et d'apporter des changements concrets.
Apporter des changements concrets, bien qu'au départ on peut s'élancer sans réelle vision, mais déjà briser la peur, comme vous l'avez dit, est un premier pas. Mais le plus important, ce n'est pas de persister dans, on va dire, la médiocrité.
Et là, je peux même ouvrir un débat que je n'aime pas, mais je vais vous dire, tous les hommes qui sont devant de la scène sont-ils compétents ? Non, mais on est habitué à vous voir, cher monsieur. Vous voyez un peu. Donc, oui, acceptez aussi que les femmes soient là. D'abord, on commence par là. Mais je continue de croire, et j'en suis convaincue, qu'il y a des têtes Il faut juste les identifier, les accompagner et c'est ça même tout le sens de notre combat au sein de Renfort RDC.
Absolument. Mais aujourd'hui, quand on parle de cette question de l'intégration de la jeune féminine dans les responsabilités, que ce soit étatique ou politique, on pense que le femmes aujourd'hui ont quand même une certaine faveur. Est-ce que ça a été également le cas pour vous? Est-ce que vous avez eu certaines facilités d'accéder à certaines responsabilités?
Facilité, non, ça n'a jamais été facile. Par contre, je dirais que j'ai su saisir les opportunités, en tout cas chacune, les unes après les autres. J'ai su, reconnaître le moment. Parce qu'il y a une chose d'avoir des bonnes intentions ou des bonnes idées, mais est-ce que c'est le bon moment? Il faut savoir reconnaître le moment, il faut savoir saisir la fibre d'inspiration, je le dirais ainsi. Et après, il faut toujours être prêt. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que la réussite, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Et non, ce n'était pas d'un simple claquement de doigts, mais c'est le résultat du travail que l'on a fait dans le secret, de façon constante, depuis même l'école primaire. Je vais vous peut-être vous étonner, parce que ce n'est pas courant. J'étais abonnée à la bibliothèque de mon école déjà à l'âge de 10 ans. J'étais en 4e primaire. J'étais la seule élève.
En 4e primaire,
oui,
rare. Hein, sont
j'étais
quand même
la seule élève.
Qui aime lire.
Oui, de l'école primaire qui était abonnée à la bibliothèque, qui d'ailleurs était. Il n'y avait de bibliothèque qu'au secondaire, au moins en bas, mais déjà en 4e, moi j'étais abonnée. Parce que, évidemment, je n'allais pas lire Shakespeare, mais c'était déjà une culture qui était là. Je pouvais prendre des bandes dessinées qui pouvaient parler d'environnement, d'écologie, ou même si ça parlait des Simpsons, enfin, je n'étais pas très fan d'eux, mais c'est dire que j'avais déjà cette culture de la lecture. Et très vite, lorsque j'arrive aux humanités, je vais me mettre non seulement à apprendre à continuer à lire, mais à tester mes connaissances. J'aimais bien les concours depuis, d'ailleurs. J'ai eu à représenter plusieurs fois mon école, le groupe scolaire du Mont-en-Ba, dans différents concours nationaux, régionaux, et je ramenais des médailles. Donc, très vite, je crois que cette culture de la compétition, cette culture de la mise en avant, je l'ai pratiquée, et je crois qu'on a les résultats et on continuera de les avoir.
C'est une parenthèse importante parce que mes recherches m'essoufflent quand même que vous avez remporté un concours en 2016 en tant que championne nationale de l'éloquence. Ouais. Alors, dans vos dires, il y a indirectement un mot qui revient, processus, ce que je note quand même. Parlons quand même de l'expérience, toutes les fonctions que vous avez occupées. Est-ce que chaque responsabilité a-t-elle eu à contribuer à votre vision aujourd'hui? Si on revenait sur la prise de 2022, celle de 2020, celle de 2015, celle de 2010, comment cela a avancé?
Vous pouvez apprendre?
Par rapport à toutes les expériences que vous avez pu avoir, comment cela a contribué à votre évolution et à la vision que vous avez aujourd'hui?
Eh bien, je dirais que cela a tout simplement renforcé ma conviction de servir mon pays, parce qu'il faudrait dire que toutes les expériences n'étaient pas positives. Il y en a qui ont été neutres, bien qu'il n'y en ait pas. Il y en a qui ont été visiblement positives. Et je pense que peut-être que même elles sont toutes positives, mais il y en a d'autres qui se sont montrées négatives avant que je n'en voie le bon côté. Et chaque expérience négative, comme on le dirait, me renforce ce besoin-là de lutter pour qu'on arrive à une république où la justice règne, en fait.
Une république où la justice règne. Et on parle de plus en plus de la place des femmes dans les sphères des décisions. Selon vous, quel est quand même l'impact concret de la présence des femmes dans les responsabilités étatiques pour le développement? Parce qu'il y a un moment, vous avez dit qu'il y a aussi des hommes incompétents qui sont d'ailleurs nombreux. Moi également, je suis conscient. Mais quel est l'impact de ces femmes aujourd'hui qui prennent
place? L'impact, je crois qu'il est très visible. Les femmes ont une tendance naturelle, une prédisposition naturelle pour la paix. Les femmes, nous avons une prédisposition naturelle pour la sécurité. Parce que nous avons cet instinct maternel-là qui n'est pas à négliger. Parce qu'au-delà de l'aspect intellectuel, il y a l'aspect psychologique qui compte. Et nous connaissons comment les femmes sont conçues, avec ce côté maternel, ce côté aimable, ce côté aimant. Et je crois que c'est une dose qui nous a manqué un peu dans nos institutions. Et d'ailleurs, à chaque fois que l'on parle d'un pays, on dit toujours la mère patrie, parce que l'on sait qu'un pays est censé s'occuper de ses fils et ses filles. Et imaginez-vous qu'on ait plus de mères au poste de prise de décision, qu'on ait plus de femmes qui décident tout simplement de changer les choses. Je crois qu'il y aura un boost de plus parce que lorsque les femmes, nous voulons, nous sommes déterminées, je peux vous assurer que l'on passe rarement à côté. Aujourd'hui, on a un exemple concret comme ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba, qui fait un travail merveilleux, remarquable, dont les résultats sont un processus, comme vous le disiez avant, mais on sait voir la différence. On sait voir une femme qui prend à bras le corps le dossier de la République comme si, en fait, toute sa vie en dépendait. Et je crois que c'est des exemples vraiment probants que l'on a. On a la ministre de l'Éducation nationale qui a pris soin de prendre une décision courageuse, la circulaire, sur permettant aux jeunes filles enceintes de continuer d'aller à l'école.
Vous êtes d'accord avec cette décision qui a d'ailleurs été très critiquée, hein,
en tout cas, pour moi, la décision de la ministre de l'Éducation nationale d'accepter que les filles enceintes continuent d'aller à l'école, c'est d'abord une décision d'une mère. C'est dire que c'est un risque que les hommes qui sont venus avant n'ont pas pris. Parce qu'il s'agit d'un état que quand bien même ils l'auraient appris à l'école, ils ne comprendraient pas. Quand bien même ils l'auraient vécu, ils en auraient été témoins, ils ne sauront pas l'exprimer. Mais cette dame a pris une décision telle une mère, qui se dit, est-ce que si aujourd'hui ma fille avait une grossesse non désirée, elle devrait tout de suite arrêter l'école? La question, c'est non. Maintenant, nous savons tous qu'il y a des mesures d'encadrement qui doivent accompagner la décision. Ça, c'est un autre travail qui doit être fait, il faudrait peut-être une adaptation, mais après, on sait que le corps, il a ses caprices. Pour d'autres, c'est pratique, pour d'autres, non. Donc, elle peut décider d'arrêter quand elle le veut, mais c'est dire que ça ne doit pas être un motif automatique d'exclusion. Mais et je crois que pour prendre cette décision, il fallait d'abord être une femme.
D'abord être une femme. Mais Moté Makibo Mama, là, je dois le dire en lingala, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent « Décision, monsieur, c'est miné, n'ambo, kabazoranga, na kibo mama te, na moté makibo mama te. »
Non, 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 ça, c'est clair. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous avons le côté où on est déjà sûr que le fond est bon. Le cerveau, il fonctionne, mais on sait aussi que l'âme maternelle a cette particularité de prendre des décisions pour ses fils, tel un parent qui veut, en fait, l'évolution de son enfant sans que celui-ci ne soit arrêté par quoi que ce soit. Et nous le savons bien dans notre structure culturelle, il est très pesant d'accepter qu'une fille puisse aller à l'école enceinte, alors que celui qui l'a enceinte, lui, il est là, il va continuer d'étudier, mais on exclut automatiquement la fille. En fait, c'est aussi en même temps un cri pour l'égalité et aussi un cri pour l'équité. Et comme je le disais, il y a des mesures d'encadrement qui accompagnent cette décision, mais ça juste fait un tollé parce que culturellement, ça ne s'acceptait pas. Et je crois que pour aussi prendre des décisions assez fortes comme telles, fallait d'abord être une femme.
La manie féminine est une valeur ajoutée dans la responsabilité, les hautes responsabilités du pays. Malgré ça, il y a encore des obstacles. Les femmes rencontrent encore des obstacles. Quels sont quand même les principaux obstacles auxquels les femmes font face pour accéder à des postes de responsabilité?
Eh bien, pour ma part, les principaux obstacles que rencontrent les femmes, moi, je dirais qu'il y en a trois. Ces obstacles sont d'ordre, je dirais, intellectuel, dans la mesure où il y en a qui ne sont pas assez formés. Deuxièmement, sur le plan psychologique, il y en a qui ne sont pas assez aguerries. C'est-à-dire qu'elles ont encore la peur et le doute qui passent par là. Et le troisième plan, c'est le plan religieux. Où et le plan religieux, il rejoint le plan culturel. Et je vais revenir sur le plan religieux. Mais d'abord, sur le plan culturel, on a ce côté où on vous dit « Basi batonga rambo kate ». On a grandi avec cette phrase. On a le plan... Et là, ça, c'est ce qui alimente, en fait, la peur et le doute. Et on a le plan religieux aussi, où même dans pratiquement toutes les religions, vous vous rendrez compte que les femmes, c'est toujours la seconde zone, en fait. C'est jamais en avant. Pourtant dans les mêmes différents livres et écrits religieux, vous allez vous rendre compte qu'on parle toujours quand même d'une femme ou deux qui ont excellé dans telle ou telle autre chose. Mais bizarrement, personne ne veut enseigner ça, personne ne veut mettre l'accent dessus. Et comme on a ce côté où je disais qui rejoint le côté intellectuel, où les femmes, nous ne prenons pas soin de lire par nous-mêmes, de vouloir apprendre nous-mêmes, d'étudier, pour regarder même aller dans les études théologiques. Comptez la proportion des femmes qui vont faire des études théologiques, il y en a très peu. Vous allez vous rendre compte que, bon, oui, on vous a déjà dit que la femme ne doit pas prêcher, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais c'est de dire que sur plusieurs plans, déjà, on a un souci où on a indirectement montré à la femme que, écoute, ta place, c'est à la cuisine.
Mais est-ce que ces femmes... parce que lorsque je fais un tour au sein des universités, dans tous les auditoires, c'est majoritairement des femmes. Mais est-ce que ces femmes ne prennent pas au sérieux leurs études? Parce que les auditoires, aujourd'hui, sont remplis des femmes.
Les auditoires sont remplis des femmes, oui, mais la proportion reste faible. Aujourd'hui, je dirais, dans une université, ça dépend aussi, c'est vrai, des universités, parce qu'il y a des universités où vous avez une majorité féminine. Le cas, par exemple, de l'IFASIC, c'est une université où il y a autant de filles que de garçons, ou autant de femmes que d'hommes, mais ce qui n'est pas le cas à l'UNIKIN, ce qui n'est pas le cas à l'UNILU, ce qui n'est pas le cas à l'Académie de Beaux-Arts, par exemple. Il y a très peu de femmes qui décident de se lancer dans les arts sous leurs différentes formes. Vous vous rendrez compte, quand vous allez encore à l'INBTP, la proportion ne fera que se réduire. Vous allez aller, à l'Institut supérieur d'aménagement urbain. Toutes ces structures, vous allez vous rendre compte que c'est relatif. On n'a pas beaucoup de femmes à l'université de façon générale et on n'a pas beaucoup de femmes davantage dans les filières des STEM. Et tous ces éléments font qu'à un moment, on a un problème de modèle. Parce que pour qu'on ait plus de femmes à l'université, il faut qu'on voie aussi plus de femmes aller à l'université et que l'on voie plus de femmes réussir. Mais l'on va se rendre compte que les femmes qui arrivent dans les universités ou dans les différents instituts, excusez-moi, vous allez vous rendre compte que elles sont déjà minoritaires et très vite, elles vont se laisser distraire parfois. Mais très vite aussi, elles vont peut-être manquer d'encadrement. Mais aussi très vite, elles vont être victimes de harcèlement. Il y en a qui ont abandonné l'université parce qu'elles n'ont pas pu faire face psychologiquement à l'harcèlement.
Parfois, harcèlement causé par deux femmes aussi.
Non, je ne pense pas que ce soit une raison. Parce qu'au fait, on n'aura jamais une bonne raison pour commettre des infractions. Vous voyez un peu ? Sinon, tous les meurtriers seraient dehors. On dirait, ah non, mais il avait une bonne raison de le tuer. Non, ce n'est pas normal. Et je pense que ça, c'est un travail qui doit être fait, culturellement parlant. Mais pour revenir à ce que j'étais en train de dire concernant les défis que les femmes rencontrent, le doute, la peur, ça, c'est des choses que notre culture, notre société construit au quotidien. Et ces éléments doivent être travaillés au niveau de nos familles déjà, okay, depuis la cellule de base.
Voilà,
la cellule de base de la
ces obstacles.
Voilà, la cellule de base de la société, la famille, l'école, et tout le reste de la société, l'église ou la mosquée ou bref, toute la structure religieuse qui soutient la foi. Parce que comme vous le savez, quelque chose que nous acceptons comme une vérité, c'est difficile de la déconstruire. Et si depuis l'école, on a cette phrase qui dit Marc joue au ballon pendant que Jeanne va au marché, ou Marc fait ses devoirs pendant que Jeanne aide maman à la cuisine, vous voyez, c'est que depuis l'école primaire, on nous a montré indirectement que voilà, les filles, c'est les tâches ménagères, les garçons, c'est le loisir et puis la construction. Donc ça, on doit travailler ça. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait en amont sur le plan des différents livres, sur le plan documentaire pour l'éducation de base. Mais est-ce qu'ils sont assez vulgarisés sur tout le territoire? Ça, je n'en suis pas sûre. Est-ce que aujourd'hui, les différentes figures féminines qui sont mises en avant suffisent pour empêcher aux autres d'avoir peur, les emmener à sortir de leur zone de confort, de leur case dans lesquelles elles se sont cachées. Oui, pour certaines, pas pour d'autres. Il faut aller vers elles, il faut les accompagner. Et c'était même ça le sens, par exemple, de mon programme de mentorat avec l'initiative Kitumaini de UNFPA, où on s'est rendu compte très vite que il y a même des filles qui sont déjà brillantes, mais la particularité de ces filles, c'est qu'elles habitaient les milieux périphériques, soit de la ville de Kinshasa, soit de la ville de Goma ou aussi de la ville de Lubumbashi, parce que c'était un programme pilote dans 3 provinces. Et on se rendait compte que même quand ces filles étaient brillantes, c'est-à-dire que le fond dont vous parliez là au début, il y en avait, très vite, elles vont se retrouver à attraper une grossesse non désirée. Déjà parce qu'elles sont dans un milieu très pauvre et soit encore elles vont se retrouver à abandonner l'école parce qu'il y a la pression de la société, on a tout le côté de la forme qui n'est pas respecté parce que par exemple au moment de rentrer à l'école, à la rentrée scolaire, souvent parfois les parents n'ont pas d'argent. Est-ce qu'elle va accepter de reporter son vieil uniforme pour aller à l'école, aller apprendre, ou bien elle va se laisser intimider par ce désir de paraître avec un nouvel uniforme quand il n'y en a pas? Il y en a qui ne vont pas à l'école juste à cause de ça parce qu'on va se moquer d'elle. En fait, c'est aussi le regard des autres. Et il y en a aussi qui vont parfois tout simplement abandonner pour une raison ou une autre. Mais c'était de dire qu'il y a des filles qui montrent déjà la voie, qu'elles sont bien parties. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas les prendre par la main, les accompagner, leur dire comment nous on a fait lorsque les temps n'étaient pas faciles pour qu'elles puissent continuer leur chemin? Et aujourd'hui, nous sommes très fiers de voir que ces filles, aujourd'hui, parce qu'on est en 2016, aujourd'hui, elles ont toutes fini l'école secondaire. Aujourd'hui, elles sont à l'université, à l'université ou dans un institut spécialisé. Chacune est en train de suivre sa route. Et je crois que c'est tout ça le sens du combat.
C'est devenu votre travail de tout le jour, accompagner ces femmes à se développer.
Les jeunes, les femmes. Et j'ai un grand plaisir à accompagner les jeunes filles.
Les jeunes filles. Alors, quand même, puisqu'il faut également partager l'essentiel, quelle est la première phrase incontournable que vous partagez à toutes les femmes et que vous comptez accompagner?
Alors, cette première phrase incontournable, eh bien, je ne la reformulerai pas nécessairement à chaque fois de la même manière, mais ce que je dis à chaque fille, à chaque femme, c'est que tu peux tout et rien ne peut t'arrêter quand tu veux, quand tu travailles pour et quand tu te donnes les moyens pour.
Il y a une histoire personnelle derrière cette phrase?
Ah oui, beaucoup. Mais est-ce que je veux en parler à la radio aujourd'hui? Pas nécessairement. Mais en fait, de façon générale, j'ai eu une enfance pas facile. J'ai eu une enfance pas facile. Et je crois que les difficultés que nous rencontrons souvent dans l'enfance, au sein de la famille, peuvent facilement déstabiliser en fait quelqu'un. Et il y a des circonstances qui peuvent vous prédisposer à échouer en fait. C'est-à-dire que lorsque vous regardez cette personne, vous vous dites « Ah là là, mais c'est quand même un peu mort pour son avenir. » On a des cas comme ça. Et je crois que je fais partie de ces enfants-là pour qui on avait déjà peint en noir l'avenir, pour dire qu'ici, il n'y aura pas de belles couleurs, il n'y aura rien de beau à regarder. Mais très vite, avec la détermination, avec le courage, avec surtout le refuge dans la lecture, c'est très important. Parce que lorsque l'on lit, on peut apprendre beaucoup de choses. Comme disait M. Barack Obama, la bibliothèque, c'est la maternité des grandes personnes. Et lorsque vous êtes dans cette maternité qu'est la bibliothèque, dans la lecture, vous pouvez faire naître même le courage qu'il n'y avait pas, vous pouvez faire naître les idées qui n'étaient pas là, vous pouvez faire naître tout ce que vous voulez, en fait. Parce que tout part de l'imagination, mais cette imagination, elle ne doit pas se baser sur les réseaux sociaux ou sur ce que l'on voit se promener dans les rues. Il faut que ce soit des images qui soient construites sur la base des convictions fortes qui peuvent être lues, relues. Et c'est pour ça que j'insiste encore que les femmes qui veulent s'élever doivent se mettre à la lecture.
J'espère que ça va édifier une femme qui nous suit en ce moment parce que ça sent, hein, ça vient du cœur et ce qui vient du cœur, on aime énormément. Une question très importante. Il y en a plein aujourd'hui. À un moment, il y a 10 ans, on s'est plaignait qu'il n'y ait pas assez de femmes, notamment dans la responsabilité étatique. Aujourd'hui, de plus en plus, il y en a. Mais ces femmes qui occupent ces postes, elles sont très critiquées. Très critiquées. Il y a parfois, on demande à adresser les bilans, il n'y a pas de bilan. Qu'est-ce que vous pensez quand même? Quelle est la vision que vous avez aujourd'hui de la femme congolaise qui participe à la gouvernance de ces pays, qui dirige, qui est dans ses responsabilités?
Eh bien, je crois que les femmes qui arrivent au poste de prise de décision dans la gouvernance, ce n'est pas nécessairement le gouvernement, mais ça peut être des mandataires, ça peut être à différents niveaux. Mmh. Je crois qu'il y a lieu que nous fassions des efforts. Et c'est pour ça que je disais, même dès le début, ce n'est pas qu'une question de femmes. C'est une question d'hommes, en fait, avec grand H, les humains que nous sommes. Lorsque nous arrivons à des postes de prise de décision, nous devons avoir un bilan. Et ce bilan, il part déjà d'un plan d'action clair, des idées qui sont clairement définies, comme on nous le disait, que ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement et les mots pour le dire arrivent aisément.
Vous pensez que les femmes ne sont pas assez préparées pour arriver à ces postes?
Non, mais j'ai dit que simplement, de façon générale, en tant que Congolais, pour rester dans notre contexte, beaucoup de personnes qui arrivent au poste de prise de décision ne sont pas préparées. Ça, c'est de façon générale. Ce n'est pas qu'une question de femmes. Maintenant, il y a ce côté culturel où vous, en tant qu'homme, vous nous demandez plus que vous ne vous en demandez à vous-même. Mais aussi, c'est dire que en tant que femme, nous avons un devoir double. Le premier, c'est que déjà, on ne nous accorde même pas le crédit. On se dit que ah, c'est une femme, donc c'est mort. Alors que en tant que être humain, on a des capacités et on devrait à chaque fois nous donner la possibilité de les prouver. Ça, c'est une chose. Mais deuxièmement, c'est dire que nous avons un devoir qui est, je dirais, du système. Parce que le problème, c'est que le jour où on va construire un système fort, où on va construire des institutions fortes, la question du genre ne va même pas se poser. On aura les delivery units, comme on appelle, on aura les assignations, on aura les résultats et on va parler de ça. Peu importe le genre de la personne qui sera aux commandes. Et ça, on va arriver là quand on aura des institutions fortes. Mais comme je disais, si et seulement si, nous, en tant que femmes, nous sommes conscients du fait qu'on a déjà un défi culturel, il va falloir que l'on puisse faire un effort en termes de bonne gouvernance, en termes de diplomatie, de coopération, mais aussi en termes d'innovation, parce que c'est ce qui fait souvent défaut. On a tendance à faire ce que les autres ont fait, voilà. On a tendance à revenir sur ce qui a déjà été fait, qui n'a pourtant produit aucun résultat, parce que par moment, on est à court d'inspiration, et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est aussi ça le mal du système, mais aussi voyager. Voyager, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup l'esprit. Ça change beaucoup la façon de voir lorsque vous voyez d'autres jeunes ou d'autres femmes comme vous dans d'autres États africains, toujours, je ne vais jamais beaucoup plus loin, africains comme nous, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils s'introduisent dans les grands milieux, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils travaillent. On peut s'inspirer des bons exemples et faire la différence en tant que femme, en tant que jeune, en tant que Congolais, tout simplement.
Si vous pouviez lancer un projet, une initiative qui vous tient à cœur, sans contrainte des temps ou des ressources, quels seraient ces projets et en quoi consisteraient-ils ?
Alors, une initiative sans contrainte de temps, sans contrainte de ressources. Alors, pour moi, ça serait un institut spécialisé pour préparer, je dirais un institut spécialisé en renforcement de capacité.
C'est un grand besoin.
Non, il n'y a que ça. Je suis sûre que le jour où on aura toutes les capacités renforcées, le Congo va démarrer.
En regardant votre chemin parcouru, de quoi êtes-vous le plus fier ?
Bon, de quoi suis-je fier ? Je ne sais pas, mais de qui suis-je fier ? Je crois que je suis fier de moi-même. Premièrement, parce que, comme je le dis, déjà depuis mon enfance, rien n'augurait... on aurait la Prisca Magnala que l'on a aujourd'hui. Est-ce qu'elle est fin prête? Non. Est-ce qu'elle est finie? Non. C'est une femme en construction. Mais je crois que ça reste un véritable honneur pour moi de savoir que je me relève de mes cendres et qu'à chaque fois que je tombe, oui, je me relève et je me relèverai encore. Alors, je suis très fière de moi. Très fière de n'avoir pas abandonné mes valeurs, parce que s'il y a quelque chose avec laquelle je ne transige pas, c'est ça. Non, je suis restée là, dans mes valeurs, dans mon éthique et dans mon amour pour la patrie. Et je crois qu'il n'y a rien qui arrive à éteindre cette flamme pour la patrie en moi. Oui, bon, à la fin, je suis toujours fière de moi.
Ça, c'est très bien. Merci à tous les fidèles auditeurs qui nous suivent ce soir. C'est YouJob et Prisca Magnala et notre invité du soir. Vous êtes ici à Kinshasa, en dehors du pays ou partout où vous êtes. C'est un plaisir de savoir que vos oreilles sont connectées. On ne pouvait pas terminer cette émission. C'est vrai qu'on arrive déjà vers la fin. On ne pouvait pas quand même terminer cette émission sans aborder cette question. Vous étiez annoncé comme favorite à la course au Conseil national de la jeunesse et un grand soutien de jeunes notamment, mais arrivé à la veille ou quelques jours avant l'élection, vous avez désisté. Qu'est-ce qui a motivé cela alors que les jeunes vous voyaient déjà à la tête du CNJ ?
Eh bien, ça, c'est une question très difficile à répondre, mais en même temps très évidente. Vous l'avez lu sur mon compte Twitter. Je l'ai tout de suite dit, il y avait beaucoup d'irrégularités. Et au regard de ces irrégularités, je ne pouvais pas continuer dans une telle mésaventure. Ce n'était plus une aventure, c'était devenu une mésaventure. Je donne un exemple simple, parce que ça, je l'ai dénoncé séance tenante là-bas, donc je crois que je peux le redire ici. Je n'aime pas trop parler pour moi. Je préfère parler pour les autres. Et il y a plusieurs jeunes qui avaient postulé, je donne un exemple simple, comme premier vice-président et qui se retrouvent candidat superviseur d'une thématique dont il n'a ni maîtrise ni ambition d'ailleurs. Et ça s'est fait comme ça pour plusieurs personnes. Et je pense que ça augurait quand même... une gestion qui risquerait d'être désastreuse. Et étant assise dans mes principes et dans mes valeurs, je le disais tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un gros désordre qui s'augurait et il n'y avait pas lieu de continuer. C'est comme ça que j'ai décidé de me retirer.
Pourtant, vous partiez comme favorite. Est-ce que vous avez pensé qu'il y aurait également intrusion dans la transparence des résultats ?
Comme je l'ai dit, l'exemple que j'ai donné, il parle beaucoup. Et il y en a plusieurs comme ça, pour différents postes. On part de 13 postes à 28 en une soirée, sans avoir eu une révision des textes initiales. Je crois que ça, c'était quand même, comme je dis, de mauvais augure. Et j'ai regardé, je me dis, même si je passe favorite d'une telle élection, dites-moi, je gère comment ? parce qu'on se prépare et je crois qu'il y avait lieu de se retirer et de laisser la place. Mais comme vous le savez, il y a le candidat unique qui est passé, M. Mbouyi, et on lui souhaite bonne chance. Et voilà, la jeunesse congolaise le regarde.
La jeunesse congolaise les regarde. Donc, on arrive déjà à la fin. Est-ce qu'il y a un mot à passer à la jeunesse congolaise que vous seriez en train de représenter déjà en ce moment? Mais espérons que ce n'est rien de perdu.
Il n'y a rien de perdu et c'est ce que je veux dire à tous les jeunes Congolais. Rassurez-vous, Prisca Maniala est toujours là pour s'occuper des jeunes, parce que comme nous le savons de toute façon, les jeunes, c'est tout simplement la population congolaise et chacun de nous doit prendre la responsabilité de construire notre pays et nous devons le faire de partout là où nous serons. Nous ne devons pas attendre d'accéder nécessairement au poste de prise de décision, mais c'est de dire depuis ma commune, depuis mon quartier, depuis ma ville, depuis mon avenue, comment est-ce que je peux aider le Congo? Lorsque nous serons empreints de patriotisme pour aider, faire avancer la République démocratique du Congo, vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Nous devons cultiver l'unité, cultivons la solidarité, mais surtout, comme j'insiste et j'insisterai toujours, chers jeunes, sans les valeurs, la nation ne s'élèvera pas. Nous avons besoin des jeunes qui ont des valeurs et ceci est un appel pour vous inviter à nous rejoindre dans Renfort RDC pour militer ensemble pour un Congo où les valeurs et les compétences se marient et ce sera le Congo meilleur que nous avons tous rêvé.
Un Congo de personnes compétentes, c'est ce que nous désirons tous. Merci, Prisca Maniala, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous de me recevoir encore.
Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. C'était YouJob pour ce soir. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et un nouveau sujet.
Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.